suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Dans nombre d'autres pays, à commencer sans doute par le Royaume-Uni ou les États-Unis, la poésie n'a jamais perdu sa place au sommet du podium des lettres, genre suprême, jamais détrôné par le roman, en dépit de l'immense popularité de celui-ci. La poésie n'y a jamais non plus disparu des colonnes des journaux ou des magazines, elle fait l'objet d'un soin critique continu. On la trouvait aussi dans le métro bien avant que la RATP se mit à copier. Bref, en anglais, la poésie vit. Et ici, il semble qu'elle revive. Il suffit pour s'en convaincre d'entrer dans une librairie, d'y découvrir de nouvelles collections et de nouveaux auteurs, surtout autrices, des femmes poètes plus nombreuses que jamais. Enfin, l'une d'elles, Maud Jouarret, nous rejoindra en seconde partie d'émission après un large tour d'horizon, une déambulation au pays de la poésie, un micro-pays visité aujourd'hui depuis celui beaucoup plus vaste du Festival du Livre de Paris depuis le Grand Palais éphémère. Bonjour Sébastien Dubois.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes sociologue, vous avez publié aux presses de Sciences Po La vie sociale des poètes. La vie de plus en plus sociale des poètes, et j'ai choisi de titrer cette émission aujourd'hui parce que votre enquête date d'un... Elle n'est pas si ancienne que ça, mais malgré tout, elle semble presque rattrapée par une réalité très mouvante, et c'est de ces changements dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, en prenant comme point d'appui votre travail scientifique sur ce monde de la poésie auquel vous avez consacré ce livre, qui repose en fait sur une thèse au départ.
Sur une habilitation.
Une habilitation à diriger des recherches. Et en fait, ça nous permet de mieux comprendre. C'est rare que la sociologie s'intéresse aux poètes. Je crois que vous êtes un peu seul en votre genre. Vous êtes aujourd'hui professeur à Neoma Business School et chercheur associé au CSO. Et donc, dans ce livre, vous avez pris le parti de travailler sur un corpus. J'aimerais qu'on commence par là, que vous nous disiez comment vous avez construit cet ensemble de poètes sur lesquels vous avez travaillé pour comprendre qui ils étaient, quelles étaient leurs trajectoires, ce que ça nous disait au fond de la poésie. L'approche est évidemment différente d'une approche littéraire, Sébastien Dubois.
Oui, bien sûr. Ben, je suis parti des poètes nés après 1920. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont commencé à être actifs sur la scène littéraire après-guerre, donc après 1945. Or, on sait que la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation a complètement bouleversé le paysage éditorial et le paysage des poètes. Tout le monde connaît la résistance des poètes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que après-guerre, le courant qui dominait la poésie, à savoir le surréalisme, existe toujours. Il y a un livre d'Olivier Penaud-Lacassagne sur ce sujet là, sur le surréalisme d'après 45. Enfin, le surréalisme d'après 45 n'a plus le commandement sur le champ littéraire qu'il avait auparavant, donc les dés sont à nouveau lancés en quelque sorte, et il y a une nouvelle période qui s'ouvre. Voilà, donc ça faisait sens pour moi de partir des poètes nés après 1920 pour faire une sorte d'histoire sociale effectivement de la poésie de 45 à nos jours.
Mais alors, comment vous en avez dressé la liste de ces poètes?
Alors, j'ai exploré toute une quantité de sources très variées, les anthologies, les poètes qui ont été aidés par le CNL, les livres publiés par les poètes eux-mêmes, ce que j'appelle des cartographies, qui dressent la cartographie de leur champ, etc. Et puis j'ai calculé au début un petit index de réputation. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pris les publications, etc., en attribuant un nombre de points, et j'ai retenu à peu près les 200 les plus réputés. Et puis après, ceux sur lesquels j'avais le plus d'informations, ou ceux qui avaient disparu, etc., il en est resté 163.
163, sur ces 163 poètes, vous savez combien il y a de femmes?
Oui, je sais combien il y a de femmes, il y a à peu près 13% de femmes.
Ouais. Ce qui est assez peu. On regarde la situation contemporaine notamment, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc vous parlez de la consécration, vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect des choses, sur qu'est-ce que ça veut dire la consécration quand on est poète. On sait bien que c'est pas nécessairement les chiffres de vente, parce que quand on regarde les chiffres de vente, y compris de gens qui sont devenus extraordinairement célèbres par la suite, les chiffres de vente des premières éditions, même au 19e siècle par exemple, sont très bas.
Oui, tout à fait. Mais la consécration, c'est l'entrée dans le panthéon littéraire, donc dans l'histoire littéraire. On peut raconter une petite histoire pour l'illustrer, c'est celle de Jacotet, qui commence par faire des petites notes de lecture dans la NRF, puis qui est publié dans la NRF.
Philippe Jacotet,
oui, que je dis. Antoine, pardon.
Non, vous n'avez pas donné de prénom, ouais, excusez-moi. Je peux préciser.
Philippe Jacotet, tout à fait, qui commence par publier des notes dans la Nouvelle Revue Française, puis des recueils chez Gallimard, puis il sera un des premiers à passer en poche, puis il aura des thèses sur son œuvre, et puis il finit dans la Pléiade, si je puis dire, c'est-à-dire dans son vivant, dans le panthéon de l'édition française. Donc la consécration veut dire, justement, c'est ce que disait Michaud, hein, c'est pour ça qu'on a mis Michaud, en petite image de Michaud en couverture du livre. Michaud disait, il y a de la place pour 20 poètes dans un siècle, ce sont ceux qui restent. Voilà. Et une des caractéristiques de la poésie par rapport à d'autres genres, vous parliez des chiffres de vente, c'est que les ventes suivent la consécration littéraire. Voilà. Et que donc on a une certaine stabilité, c'est ce que je trouve dans le livre, assez remarquable, de toutes les types de consécrations qui peuvent exister, c'est-à-dire à la fois critique, universitaire, éditorial aussi, qui convergent vers les mêmes noms sur le long terme.
Voilà. Oui, en fait, ça, c'est frappant. Alors, il y a effectivement ces trois dimensions. Donc, la reconnaissance par la critique littéraire, la reconnaissance par le monde académique, le nombre de travaux, de thèses consacrées à ces auteurs, et puis la reconnaissance éditoriale. Alors, commençons par celle-là, parce que vous en avez donné un indice. Au fond, c'est assez étonnant, s'agissant de la poésie, c'est-à-dire qu'elle peut être double, cette consécration. Elle peut soit passer par les collections de poche, soit au contraire passer par la Pléiade, ou les deux en même temps, d'ailleurs, souvent. C'est-à-dire, en fait, d'un côté, les livres les plus accessibles, et de l'autre, une sorte de volume. Alors, ça touche que très, très peu de poètes, en particulier vivants, mais quelques-uns néanmoins. Le passage en poche est vraiment quelque chose de très, très important s'agissant de la poésie au XXe siècle.
Oui, le passage en poche est très important pour au moins deux raisons. D'abord parce que la décision du passage en poche, quand vous interrogez les directeurs de collection de poche, en fait, vous explique qu'ils décident de passer en poche à partir du moment où ils sentent qu'il y a un mouvement autour d'une œuvre. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont rassembler tout un ensemble d'informations. Est-ce qu'il y a eu des premiers colloques? Est-ce que le nombre de livres publiés chez un grand éditeur, etc., avant de passer en poche? Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le passage en poche fait le lien entre le marché du livre et l'université. Voilà, et que les deux sont très liés, et que d'ailleurs une des questions que se posent les éditeurs de collection de poche, c'est le lien que peut, enfin l'accueil que peut recevoir à l'université tel ou tel poète. Ce qui fait que les chiffres en poche sont très de vente en poche sont très très supérieurs aux chiffres de vente en grand format, notamment en raison du public étudiant et scolaire. On parlait de Philippe Jacotet tout à l'heure. Bon, ce qui va changer aussi pour Jacotet et Bonnefoy, c'est quand ils sont entrés au programme des classes littéraires dans le secondaire. Voilà.
Mais en même temps, quand on parle de poésie en poche à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle, en fait, on parle d'une seule collection pratiquement. C'est-à-dire qu'on parle de la collection de poche de poésie de Gallimard. Ça veut dire que le pouvoir de consécration est concentré en très peu de mains, Sébastien Dubois.
Oui, tout à fait. Alors, de deux plus exactement, ou même de trois, puisqu'il y avait les collections Orphée, à la différence, mais qui a disparu. Et puis, ce qui est devenu Point Poésie, ce qui était effectivement la collection du Seuil en Poésie. Donc ça, c'est effectivement, il y avait une domination, une mainmise très forte, effectivement, de Poésie Gallimard sur le champ de la poésie contemporaine. C'est ce qui est en train de changer dans les toutes dernières, dans très très récemment, mais vraiment très récemment, avec l'apparition de nouvelles collections de poche d'autres éditeurs en poésie. Alors que
Et de publications en poche directe, c'est le cas par exemple du livre de Maud Jouaret dont on va parler dans la seconde partie de l'émission. On a des collections de poésie qui sont immédiatement en poche.
Tout à fait. Ce qui était c'était pas du tout le modèle de Poésie Gallimard. Poésie Gallimard se présentait comme en quelque sorte le couronnement d'une œuvre. C'est-à-dire que vous aviez publié déjà un certain nombre de livres chez un grand éditeur, vous aviez obtenu des critiques, des universitaires commençaient à s'intéresser à votre travail, et là, hop, vous pouviez passer chez Poésie Gallimard. Ces nouvelles collections dont vous parlez, ou Castor Astral, ou à l'Iconopop, etc., ont un modèle économique totalement différent. Voilà, donc c'est très récent, c'est vrai. Et là, c'est ce qui est en train de changer profondément dans la poésie contemporaine.
Alors revenons à la situation antérieure. Pour comparer ces trois types de consécration, vous avez fait un petit tableau. Si on regarde les 10 poètes les plus consacrés, aussi bien au plan critique, au plan éditorial, au plan académique, vous le disiez tout à l'heure, les listes ont tendance à se rapprocher à une ou deux exceptions près. On va avoir quelqu'un qui va être consacré éditorialement, mais n'aura pas beaucoup de reconnaissance critique ni académique, qui sont peut-être deux consécrations qui vont davantage l'une avec l'autre, mais dans l'ensemble quand même c'est assez frappant de voir, c'est probablement beaucoup plus le cas s'agissant de la poésie que pour le roman, si vous aviez fait l'exercice, Sébastien Dubois.
Ah oui, absolument, c'est très caractéristique de la poésie, de ce que j'appelle la lente accumulation du prestige, que de converger, que toutes les instances de consécration convergent effectivement vers les mêmes noms, et vous aviez tout à fait raison. Quand on regarde, bon, par exemple, les trois poètes qui, après 45, dominent la scène, qui sont Roubaud, Bonnefoy et Jacotet, ils ont effectivement rassemblé dans à peu près toutes les catégories voilà, la plus haute consécration possible. Donc là, il y a un phénomène de convergence qui est très intéressant à étudier pour le sociologue de la culture que je suis, et qui serait totalement différent effectivement dans le cas du roman, à ceci, en ajoutant que si on regarde les ventes de poésie contemporaine, ce sont aussi ces poètes-là qui vendent le plus de livres, mais alors tard dans leur carrière, une fois la consécration obtenue.
En général après 60 ans.
En général après 60 ans, oui.
Donc des hommes de plus de 60 ans, c'est un peu ça le portrait robot du poète de cette période-là.
C'est à peu près ça.
Enfin, le portrait robot du poète reconnu,
Ça
ne veut pas dire des gens qui écrivent de la poésie.
Bien sûr,
c'est très différent, bien entendu. Alors on voit bien qu'il y a un fonctionnement spécifique à cet univers de la poésie, et ça pose la question que vous vous posez, Sébastien Dubois, à laquelle vous répondez avec votre enquête, qui est celle de l'autonomie. Dans quelle mesure cette autonomie est totale, relative, de l'autonomie, je veux dire, de la poésie, par rapport à l'ensemble du monde littéraire? Ça, c'est une question ancienne, qui a plus de sens pour la poésie, encore une fois, que pour le roman. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des poètes qui sont également des romanciers ou des gens qui écrivent pour le théâtre, mais il y a quand même quelque chose qui fait que c'est un univers spécifique.
Oui, alors je pense qu'il faut... Il y a une chose à éclaircir tout de suite quand on parle d'autonomie, on ne parle pas d'indépendance. Parce que la poésie est évidemment sujette à tout un ensemble de contraintes, notamment économiques.
Elle est même beaucoup plus dépendante
que
d'autres domaines de la littérature.
De ce point de vue-là. Il faut entendre l'autonomie plutôt comme la faculté de décider des hiérarchies internes et des critères d'évaluation. Et de ce point de vue-là, effectivement, la poésie est relativement autonome pour tout un ensemble de raisons. Une raison, d'ailleurs, est évidente, j'en parle dans mon livre, c'est que ceux qui, à la fois, écrivent et jugent de la poésie sont souvent... pas toujours, mais sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple les universitaires qui font étudier à leurs étudiants le plus souvent des œuvres de poésie contemporaine, ils sont pour la plupart du temps poètes eux-mêmes. Voilà.
Donc là, ils dirigent des collections.
Et ils dirigent des collections parfois. Voilà.
On peut penser à la figure de Michel Deguy, par exemple.
Absolument. Donc là, vous avez quelque chose effectivement d'assez singulier, qui est un deuxième type d'explication d'un monde qui est organisé. Voilà. La troisième explication que je donnerais, c'est que, mais on en reparlera après, notamment avec Maud, mais ce qui jusque, enfin, très récemment, il y a quelques années, voilà, je disais, seule la consécration littéraire pouvait apporter de l'argent. Sur le long terme, donc c'était vraiment ce que cherchaient aussi les éditeurs, la consécration littéraire, parce que c'est, pour parler comme Bourdieu, on pouvait transformer du capital symbolique en capital économique, voilà, sur le long terme. Voilà.
Sur le très long terme, parce que vous donnez les chiffres de vente de la première édition d'Alcool d'Apollinaire, et puis les chiffres de vente en poche ou en Pléiade par la suite, mais c'est un investissement à un siècle environ.
Ah oui, parce que Apollinaire vend à peine plus de 200 exemplaires d'Alcool au moment où Alcool paraît en 1913, et il y a plus d'un million et demi aujourd'hui. Donc on voit effectivement le saut important qui prend des décennies. Donc ça, c'était le monde de la poésie avait aussi besoin, et c'est mon troisième argument, de produire des hiérarchies, parce que c'est ce qui garantit son existence sociale, avec l'entrée des poètes dans le panthéon littéraire, c'est-à-dire dans la liste des auteurs qui vont être transmis de génération en génération. Je pense que certains de nos auditeurs ont des enfants, ils sont susceptibles d'avoir travaillé sur des poèmes de Bonnefoy, de Roubaud, de Jacotet, etc. Dorénavant, à l'école ou peut-être plus à l'université.
Quand on regarde les chiffres de vente que vous donnez, y compris des poètes contemporains les plus importants, les plus reconnus, que ce soit au plan éditorial, académique, en particulier, ou critique, on s'aperçoit qu'ils sont ridiculement bas, et qu'évidemment, on sait que c'est très difficile de vivre de sa plume quand on est écrivain en France, mais a fortiori quand on est poète, en fait. Donc on peut être un poète extraordinairement reconnu dans les 10 plus grands poètes du moment en France, et vendre 200, 300, 350 exemplaires de son livre.
Oui, tout à fait. Ce qui fait qu'effectivement...
C'est à peu près ça, les chiffres. Hein, il faut...
C'est à peu près ça, mais ça peut... Mais pour vous, on parlait justement de la consécration tout à l'heure. Bonne foi en poche, ça approche les 200 000. Vous voyez, donc...
Oui, là, il y a de la prescription scolaire,
j'imagine. Il y a la prescription
donc
scolaire.
Donc ça vient fausser un petit peu les,
tout à fait.
Les choses.
Oui, mais c'est, je veux dire, c'est lâcher, le, comment dire, le graal de la carrière, si vous voulez. C'est, voilà, quand on parlait...
C'est de se retrouver dans les manuels, c'est de se
exactement,
retrouver...
Exactement. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les ventes décollent. Sinon, les ventes sont très faibles. Donc, effectivement, la plupart des poètes ont un second métier. Ou alors, il y a une autre stratégie potentielle qui consiste à multiplier les activités littéraires, c'est-à-dire à publier des livres, à avoir de temps en temps des fonctions éditoriales, à faire beaucoup de lectures, de performances, d'ateliers, de résidences, etc. pour multiplier les sources de revenus et parvenir à vivre de son activité littéraire. Mais ça, c'est loin d'être les seules ventes.
Voilà. Toute chose qui permet d'expliquer peut-être aussi pourquoi des poètes se sont rapprochés des secteurs des arts plastiques d'un côté, du spectacle vivant de l'autre, qui sont des domaines qui permettent d'avoir accès à des ressources, en particulier publiques, à des résidences, et finalement à financer leur activité artistique avec des guichets qui ne sont pas ceux de la littérature,
Bien sûr.
Ceux d'autres domaines de la création.
Bien sûr, d'autant que la publication de livres et la production d'événements, par exemple, artistiques, obéit à des logiques différentes. Un livre, vous vendez des copies, et des copies, vous ne pouvez pas vendre un livre, sauf les livres de collection pour bibliophile, mais 350 euros. Tandis que quand vous proposez une performance, une exposition, etc., vous entrez sur le marché des arts plastiques, où là, vous avez le principe d'unicité, c'est-à-dire que l'œuvre est unique, et donc elle se négocie sur le marché en tant qu'unique. Auprès, vous l'avez dit, beaucoup de partenaires publics, mais aussi quelquefois de partenaires privés, de fondations, etc. Donc on rentre dans une autre logique économique. Alors je suis loin de dire que la logique économique est évidemment la seule motivation des poètes. Il y a aussi beaucoup, évidemment, la transformation de la poésie d'un point de vue esthétique et le regard croissant tourné par la poésie vers les arts plastiques en général. La peinture, c'est ancien, mais vers aussi maintenant tout ce qui est performance, installation, etc., qui sont une part très importante de la poésie contemporaine aujourd'hui.
Alors revenons à ces 163 poètes qui constituent le corpus sur lequel vous avez travaillé. On a appris pour l'instant qu'il y avait 13% de femmes, ce qui est très peu et ce qui correspond sans doute pas à la photographie aujourd'hui d'un corpus qu'on pourrait refaire aujourd'hui. Si on veut essayer de mieux savoir qui sont ces 163 personnes, vous avez aussi travaillé sur leur trajectoire sociale, sur leurs origines sociales. Mm-hmm. De qui s'agit-il ?
Alors, il s'agit pour plus de la moitié d'enfants des cadres supérieurs, sachant que nous avons en poésie aussi le récit républicain, comme on pourrait l'appeler, qui sur...
Quelques miraculés.
Quelquefois sur plusieurs générations d'ailleurs. Hein, c'est le cas par exemple pour Prigent, pour Roubaud, qui viennent de familles à l'origine très modestes, dont le père va être instituteur, professeur, etc., et eux universitaires derrière. Et puis vous avez un ensemble aussi comme non négligeable de poètes qui viennent de milieux modestes, mais ils ont fait des études importantes. Ils ont fait des études suivies assez longues. Ça, c'est quand même très caractéristique des poètes. C'est qu'ils ont un capital culturel, pour en parler encore comme Bourdieu, important, qu'ils ont acquis, s'ils ne l'ont pas acquis directement dans leur famille, ils l'ont acquis notamment à l'école ou à travers les rencontres qu'ils ont pu faire. Donc on a affaire, quand on parle des poètes, à des intellectuels. Enfin voilà, par rapport à d'autres genres populaires, je veux dire de littérature comme la romance, etc., on est sur des profils sociologiques totalement différents. On le voit bien d'ailleurs dans les postes qu'ils peuvent exercer, puisque beaucoup sont enseignants, beaucoup universitaires et beaucoup travaillent dans le monde de la culture, voilà, comme éditeurs, comme bibliothécaires, etc.
Mais alors justement, qu'est-ce qui fait que pour une personne donnée, à un moment, on va la qualifier de poète plutôt que de professeur d'université ou plutôt que de, d'éditeur, par exemple? Vous parlez d'un statut social du poète. Comment s'acquiert-il et à partir de quel moment, au fond, il est associé à une personne?
À partir du moment où vous rentrez dans les réseaux professionnels, si je puis dire, de la poésie. Professionnels, ne l'entendons pas comme qui gagnent de l'argent, mais comme appartenant effectivement à l'économie symbolique de la poésie, qui peuvent être des revues, qui peuvent être des éditeurs, qui sont aussi des institutions. À partir du le pouvoir de consécration des institutions est important aussi. À partir du moment où vous bénéficiez, par exemple, d'une bourse du CNL, là aussi vous obtenez un statut de poète. Donc ce statut s'acquiert dans l'intégration de l'écosystème économique et symbolique, social, de la poésie. C'est effectivement une question très importante parce que la poésie est un des genres les plus pratiqués en amateur. Donc il y a une distinction assez nette entre ceux qui sont intégrés voilà, dans cet écosystème de la poésie, et ceux qui ne le sont pas. Je raconte une petite histoire, si je me souviens bien dans le livre, mais au marché de la poésie, fut un temps, ils avaient même proposé aux personnes qui arrivaient d'imprimer leurs poèmes sur une imprimante géante, voilà, de manière à soulager un petit peu les éditeurs qui se trouvaient sollicités par beaucoup de gens qui essayaient en fait de placer un recueil. Et donc là, il y a un système, voilà, d'écosystème, un écosystème de reconnaissance sociale et d'intégration dans un monde social qui est effectivement très puissant. Et
on se dit, en vous entendant, que ça ressemble beaucoup au mécanisme à l'œuvre dans le monde académique, c'est-à-dire la reconnaissance par les pairs en particulier.
Tout à fait. Il y a un phénomène de reconnaissance par les pairs, vous avez tout à fait raison. De toute façon, dans les arts, vous avez ce premier système de reconnaissance par les pairs.
Ça vaut plus pour la poésie que pour le roman.
Et vous avez l'autre, c'est la reconnaissance par le marché. Voilà. Et comme la reconnaissance par le marché n'existe pas en poésie, enfin, ou n'existait pas, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, eh bien, il y avait guère d'autres moyens que de chercher à accumuler du prestige, c'est-à-dire de rentrer dans ce système social dont je parlais.
Mais c'est quand même un tout petit monde, c'est-à-dire reconnaissance par les pairs, mais dans un monde académique, comme si dans le monde académique, il n'y avait que deux ou trois universités, au fond. C'est un peu, ça, c'est, on le disait tout à l'heure, il y a très peu de collections de poche, il y a très peu de gens. Oui. À la commission du CNL, il y a très peu de gens qui vont décider de qui a le droit d'être poète ou pas, en fait. On peut le dire un peu comme ça.
Un peu comme ça, enfin, pas tout à fait.
J'exagère.
Vous exagérez un petit peu parce que là, vous avez en tête les poètes les plus reconnus, alors ceux qui figurent effectivement tout en haut du Panthéon, mais vous avez toute une galaxie d'éditeurs qui sont des éditeurs professionnels. Et il y a évidemment, si on parle de hiérarchie, des hiérarchies variées.
Parlais surtout d'une situation qui prévalait peut-être il y a 20 ans encore.
Je dirais même moins, il y a 10 ans.
Les choses se sont transformées très, très rapidement. On va y revenir, Sébastien Dubois. Avant de procéder à cette comparaison temporelle, peut-être on peut aussi procéder à une comparaison géographique. Je commençais cette émission en parlant de la place de la poésie dans d'autres pays, en particulier dans ceux que je connais le mieux, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui me paraît une place très différente, centrale, en fond, qui n'a jamais vraiment baissé d'intensité, ne serait-ce que dans la représentation symbolique. Vous posiez la question, et ça m'est arrivé souvent à des romanciers britanniques, tout de suite, je pense à Martin Amis, par exemple, voilà, va vous dire que la poésie, il n'y a pas plus suprême que la poésie. C'est vraiment ce à quoi devrait aspirer normalement tout écrivain. Sauf qu'il n'y arrive pas. Et des gens s'excusaient d'être romancier au fond et pas poète. Ouais. Chose qu'on n'entend pas vraiment en France. Et je me demande comment expliquer ce changement. Est-ce que autrefois, il y a beaucoup plus longtemps, au 19e siècle, la poésie jouissait sans doute d'un statut un peu comparable à celui qu'elle a encore dans d'autres pays? Comment l'expliquer? Dans quelle mesure le rôle de l'école, le fait d'utiliser la poésie comme moyen mnémotechnique, n'a pas plombé, au fond, la poésie dans notre pays?
Alors ça, c'est une bonne question. Je corrigerai, si vous me permettez, juste une vue, parce que le cas de l'Angleterre est effectivement un peu particulier. Aux États-Unis, la poésie est marginalisée plus qu'en France. C'est-à-dire qu'elle a été confiée, pour le dire brutalement, elle a été confiée aux universités. Voilà. Qui ont mis en place des masters de création littéraire, qui fournissent le public. Les poètes occupent des positions dans ces universités-là, et la plus grande partie aujourd'hui de la poésie américaine est publiée par des presses académiques. Donc le système américain, et j'allais dire, d'une certaine manière, si on devait comparer le système français et le système américain, on dirait que le système français finance les acteurs de la poésie. Aux États-Unis, je caricature un peu, hein, bien sûr, mais pour être clair, aux États-Unis, ce sont les universités qui ont pris en charge, voilà. Les arts purs. Après, je ne sais pas si l'utilisation comme mémotechnique. Moi, ce qui me paraîtrait plus pertinent serait de parler de l'histoire sur le très long terme de la poésie française, de son inscription dans les cercles aristocratiques, voilà, et de la définition du genre qui s'est faite, mais depuis au moins la Renaissance, voilà, jusqu'au 19e siècle, avec la recherche effectivement de l'innovation formelle qui est très importante, plus que chez les Anglais, par exemple. Voilà, donc d'une tradition intellectuelle très vivace et qui, je crois que la poésie contemporaine emporte la marque encore aujourd'hui. C'est en train de changer très rapidement, on le disait tout à l'heure, mais emporte encore aujourd'hui très largement la marque. remarque. Et en quelque sorte, d'une certaine manière, enfin, le monde intellectuel ou l'université aurait remplacé. Voilà, c'est Gautier qui disait ça, hein, après l'aristocratie du sang, l'aristocratie de l'esprit. C'était le point de vue des romantiques. Donc on a cette longue histoire de la poésie française, parce qu'il ne faut pas oublier que la poésie française a eu pour mission, enfin en tout cas on a voulu lui donner la mission de reformer la langue et de dire la bonne langue. Alors, on peut penser à Malherbe, etc., etc. Parce qu'était l'Académie française, je crois que je le rappelle un moment dans mon livre, mais quoi, l'Académie française est fondée, il n'y a quasiment que des poètes. Voilà.
Alors, venons-en à la situation contemporaine. Et on peut peut-être la dessiner, la voir par contraste en la comparant avec ce que vous avez produit dans votre enquête. Vous disiez tout à l'heure, au fond, c'est dans les 10 dernières années que les choses se sont accélérées. Quels sont les changements les plus notables à vos yeux, Sébastien Dubois?
Alors, ils sont, à mon avis, de trois ordres. D'ordre esthétique, avec une poésie plus populaire. Il n'y a évidemment rien du tout de péjoratif dans ce que je dis là, mais l'entrée d'un vocabulaire, de situations, etc., dans la vie quotidienne, d'une part. Un autre mouvement très important, ça a été la féminisation. Et un troisième mouvement très important, ça a été le lancement par un certain nombre d'éditeurs de nouvelles collections, voilà, qui ont accueilli de nouveaux poètes, et surtout beaucoup de nouvelles poètes, voilà, et qui donc sont en train effectivement de changer les règles, parce que il y a 20 ans, je crois pas qu'un éditeur se serait hasardé à lancer une collection de poésie en poche, ni à publier directement en poche un certain nombre de poètes. Il aurait jugé que le risque financier était beaucoup trop élevé, alors qu'aujourd'hui ça marche. On parlait des chiffres de vente, vous disiez, mais des poètes comme Arthur Teboul par exemple, ou Cécile Poulon, etc., vendent aujourd'hui significativement plus de livres que ne le faisait même un André Dubouchet.
Arthur Teboul, c'est un peu de la triche, parce que c'est un musicien, il a une notoriété qui vient d'ailleurs en quelque sorte.
Oui, bien sûr, mais le sociologue que je suis vous dirait qu'il est publié dans une collection de poésie, donc voilà, il obtient ce statut là aussi, et effectivement, c'est les chiffres. On peut parler de Cécile Poulon si vous préférez, mais Cécile Coulon vend sensiblement plus de livres que ne pouvait le faire André Dubouchet ou même Antoine Jacotet.
Parce qu'elle a écrit des romans, par exemple. Donc, mais en tous les cas, bon, ça c'est le constat. Donc ces trois changements. Comment, quelles hypothèses on peut faire, faute d'enquête encore pour l'instant, mais quelles hypothèses on peut faire pour tenter d'expliquer ces changements, pour tenter d'expliquer cette vie de plus en plus sociale des poètes, Sébastien Dubois?
Alors, je sais pas, je dirais de plus en plus social, je parlerais plutôt d'un élargissement, en fait. Voilà. Et je pense que c'est le résultat de toute une série de choses, et dans le désordre. Hein. Y a l'importance de l'action publique et la multiplication des lieux, des rencontres, etc., qui a été très importante. Il y a eu l'apparition d'une nouvelle génération, dont Maud est un très bon exemple aujourd'hui. On parlait d'Arthur Teboul, on parlait de Cécile Coulon, mais il y en a beaucoup d'autres, Stéphanie Vauvor, enfin bon voilà, il y en a beaucoup d'autres. Et puis du pari qu'ont fait des éditeurs, parce que je pense que les éditeurs ont un rôle très important dans ce jeu-là, de lancer de nouveaux et de nouvelles poètes, avec, et c'est peut-être le plus important, aussi de nouvelles attentes. Voilà, d'un public, on voit réapparaître un public pour la poésie, pour des formes peut-être plus directes, qui passent par les réseaux sociaux. Alors le cas, enfin extrême si je puis dire, c'est le cas des Instapoètes dont je parle dans mon livre, voilà, qui ont un succès absolument considérable, qui sont suivis par des millions de followers. Mais vous avez comme ça un contact aussi plus direct avec le public. Pour les réseaux sociaux ont été un moment important de ce point de vue-là. Et Rupicor a donné, par exemple, c'est une des premières à s'être lancée avec Langlive, elle a donné une quelque sorte le départ à tout un ensemble de poètes qui se sont lancés sur les réseaux sociaux. Est-ce que les éditeurs se sont dit, voyant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien il y a les moyens de faire quelque chose, mais de faire quelque chose, parce que là on serait dans de la poésie plus savante malgré tout que ce que font les instapoètes. Je pense que ça, c'est, il y a un ensemble de facteurs qui jouent. C'est difficile de répondre à la question parce qu'effectivement c'est très très récent. Voilà. Donc je suis en train de travailler, tout à fait, d'interroger des poètes, etc., pour comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe, et surtout de lancer une enquête sur la lecture de poésie.
Vie de plus en plus sociale, au sens où la poésie sort du livre pour ajouter une dimension live avec des soirées de lecture, de performance et pour ajouter une dimension de réseaux sociaux aussi à la poésie. C'est en ce sens qu'elle est, à mes yeux, de plus en plus sociale, cette poésie. On continue d'en parler dans la seconde partie de l'émission. Vous l'avez compris, c'est Maud Jouary qui nous rejoint, assez emblématique de ce moment. Elle viendra notamment nous parler de Marée Vache, ce recueil paru dans cette collection de poches directement au Castor Astral. C'est après un extrait du nouvel album de Waxahachie, Three Sisters.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
I pick you up inside a hopeless prayer. I see you beholding to nothing. I make a living crying, it ain't fair. Night budging, I don't see why. It's a state of mind you design, you get everything that you want. You might get lost in the moment, take it easy on your opponent. But it plays on my mind how the time passing covers you like a friend.
Sociale des poètes, c'est le titre du livre de Sébastien Dubois dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées, il paraît aux presses de Sciences Po, et on en parle avec vous également, Maud Jouary, poète. Alors, poète ou poétesse, c'est vrai que c'est un nom épicène, après tout on pourrait choisir de dire poète, et peut-être pour dire à quel point désormais, c'est l'une des choses sur lesquelles on a insisté, vous êtes de plus en plus nombreuses les poétesses aujourd'hui dans ce monde de la poésie.
Oui, absolument.
Vous mettez un point médian.
Oui, bah, pas forcément pour moi. Moi, je dis poétesse ou je reprends l'expression de Liliane Giraudon, poétasse.
C'est pas mal.
C'est pas mal aussi.
Ouais. C'est mieux. C'est
ouais.
Mieux. Ouais. Donc, vous êtes assez emblématique des transformations dont on a parlé. Par exemple, votre troisième recueil, Marée Vache, a paru dans cette collection Poche Poésie du Castor Astral, c'est-à-dire une collection qui prend le parti de publier directement en poche et qui aujourd'hui propose un catalogue assez somptueux et assez représentatif de cette nouvelle scène de la poésie. J'imagine que vous vous y trouvez très bien dans cette liste.
Ah oui, tout à fait. Après, elle est très diversifiée. Il y a vraiment des poètes et des poétesses de l'ancienne génération.
Ça,
et
ça puis renvoie des esthétiques très différentes.
Des esthétiques totalement différentes. Il n'y a pas une école du castor, finalement. C'est vraiment, ou alors, c'est une école de la diversité, quoi. C'est vraiment représentatif de ce qui se fait aujourd'hui, à la fois sur les scènes et puis de manière institutionnelle, plus traditionnelle, on va dire, au niveau de la légitimité, quoi.
Vous êtes également performeuse. Je disais tout à l'heure que l'un des traits, peut-être, ces dernières années, c'est que les poètes étaient allés voir du côté des arts plastiques, étaient allés voir du côté du spectacle vivant, sans doute pour des raisons économiques, en partie, mais pas que, aussi pour un vrai intérêt à la manière de mélanger, au fond, les approches. Pour vous, la poésie, c'est d'abord imprimé dans un livre, ou ça peut ne pas être imprimé et ça peut avoir lieu en public, face à un public?
Bah c'est les deux, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Mais moi je trouvais très intéressant que vous mettiez en avant justement l'intérêt économique que plusieurs poètes et poétesses ont à performer sur scène, à inventer des tas de choses de ce qu'on appelle les arts littéraires, le hors-livre, les scènes slam aussi. C'est vrai qu'on en a besoin.
La littérature hors du livre, pour
oui, la littérature hors du livre.
Ce que fait Jean-Max Collard au Centre Pompidou avec le Festival Extra, où il s'agit de montrer que la littérature peut se faire hors des livres.
Absolument,
aussi.
Mais en fait, il y a plein de festivals qui existent depuis assez longtemps. Et au Québec, ça fait longtemps qu'ils appellent ça les arts littéraires. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est tout ce qui est hors du livre, mais qui existe, et pas seulement non plus sur scène. Hein. Ça peut être aussi en hypermédia, enfin... Donc il y a plein d'initiatives intéressantes, mais c'est vrai que économiquement, il faut pas le, enfin il faut
le dire.
C'est une
question importante.
C'est important, ça nous permet d'avoir plus de contrats. Nous avons besoin de contrats. Un contrat d'édition n'est pas un contrat de travail. Nous n'arrivons pas à justifier notre travail. C'est très compliqué pour nous. Donc la scène, c'est effectivement ça. Après, c'est pas que ça. Il y a plein de poètes et poétesses aussi qui font le choix de ne pas s'emparer de la scène, de la performance pour travailler différemment leur texte. C'est un choix. On n'est pas voilà. Mais après, on est nombreuses à l'investir. Mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les lectures de poésie. Enfin voilà. La poésie, c'est quand même du rythme, des images et puis du sens qui dessine une ligne problématique. Mais c'est quelque chose qui est assez oral. Hein. Dans la tradition littéraire, c'est de l'oralité. Donc,
depuis assez longtemps, et c'est vrai, je voudrais quand même citer le nom aujourd'hui de Christophe Fiat, par exemple, qui a une proximité à la musique, a fait des lectures en musique ou avec une guitare électrique et en même temps a investi les réseaux sociaux. Donc tout ça n'est pas né du jour au lendemain il y a 10 ans. Il y a une vraie préparation, mais ça s'est accentué. Comment vous, qui êtes contemporaine de ce mouvement, j'imagine que vous avez commencé à écrire au moment où ça commençait ou peut-être un peu avant, comment vous observez tout ça?
Ah, moi je suis arrivée de manière totalement sérendipitaire et parfaitement idoine en fait, au bon moment. Je pensais que
vous avez eu du bol, quoi.
Mais carrément. Mais alors une chance, un alignement des planètes, mais rarement vu, parce que j'ai écrit mon premier recueil Cobalt. Enfin, il a été publié en 2019 dans une maison d'édition belge qui s'appelle le Tétralyre, qui était symboliquement reconnue. Enfin voilà, une bonne maison d'édition, mais petite, de poésie. Et je pensais qu'il allait passer complètement inaperçu. Et donc on était en 2019, quelques années. Mais très peu d'années après ce que moi je considère comme le grand changement, qui est quand même MeToo, et puis après Black Lives Matter, qui est la rupture épistémologique globale, mondiale, qui a tout bouleversé, et également le milieu de la poésie et puis l'expression en soi.
C'est très intéressant parce que vous ajoutez un quatrième facteur, en quelque sorte, qu'on n'a pas souligné tout à l'heure avec Sébastien Dubois, qu'on pourrait dire un facteur politique, qui a pris différentes formes, mais qui est une dimension politique de la poésie.
Oui. Et en fait, même épistémologique, donc un changement de point de vue, de regard sur le monde, de manière de penser, de cadre de pensée. Les cadres de pensée ont changé. On a tous acquis des nouvelles lunettes pour regarder ce qu'on faisait. C'est incroyable. Et donc, ça a totalement changé ma petite trajectoire.
C'est à la fois politique et épistémologique, Sébastien Dubois.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Maud. C'est ce que j'appelle la légitimité intersectionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est mis Après de longues années de poésie pure où le discours était « n'évaluons la poésie que sur sa seule valeur littéraire », on s'est mis à évaluer pas seulement la poésie, mais aussi tout un ensemble d'œuvres d'art sur d'autres critères que moi j'appellerais, on pourrait dire, intersectionnels, c'est-à-dire la contribution à ce qui est socialement désirable, en fait. Voilà. C'est-à-dire donc faire venir des femmes, traiter des problèmes politiques contemporains, etc. C'est un mouvement qui est très important qui est aux États-Unis et qui est arrivé, fort heureusement d'ailleurs, à mon avis, en France. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Maud. Et de ce point de vue-là, oui, je suis d'accord avec vous, MeToo a été une rupture importante parce que ça a en quelque sorte ouvert les portes.
Donc MeToo, Black Lives Matter, on pourrait rajouter peut-être une troisième dimension, Maud Jouaré, qui serait la dimension écologique, la dimension anthropocène. Alors peut-être la poésie la renoue avec un rapport particulier, en tous les cas c'est le point de vue de certains, avec la nature, mais ouais. En tous les cas il y a une forme d'envie aussi d'intervention sur ce domaine-là de la part de certains poètes.
Oui, oui, mais plus largement de la part de plein de personnes vivant sur
oui,
cette,
bien sûr.
Dans
bien
tous
sûr.
Les domaines. Non, mais c'est mais... ça, dans tous les domaines. Moi, je me méfie toujours un petit peu de rapprocher la poésie de la nature. Hein. Donc la poésie, c'est pas
c'est
forcément
pour ça que
la nature,
j'étais
les petites fleurs,
dans
les
ma
papillons
formulation.
Et le péché de l'enfance au fond du jardin. Enfin voilà. Enfin, ouais, on a ouais. vraiment, on parle d'autre chose.
Enfin, non, c'est même l'idée. Enfin, si on vous lit, c'est plutôt voilà. L'idée, c'est plutôt de rompre avec ça.
Bah, c'est... Disons que c'est pas ce que je vis, hein. Donc moi je vais raconter des choses que je vis, auxquelles j'assiste. Et effectivement j'assiste comme tout le monde à cette ère pré-apocalyptique. Mais effectivement ça dépend bah, plein d'artistes et puis de gens qui sont pas artistes mais s'en emparent voilà, de différentes manières. Mais la poésie, ouais, c'est pas les petites fleurs.
Et le numérique dans tout ça.
Et le numérique, voilà. Très intéressant aussi parce que... Je pense que cette nouvelle génération, dont je ne fais même plus partie, hein, moi, c'est ce que je venais de dire à Sébastien.
Vous êtes
né
en 1986.
En 86, donc j'ai 37 ans, et je fais partie des jeunes vieux ou des vieilles jeunes, enfin, ça dépend comment, d'où on regarde. Mais voilà, les réseaux sociaux sont des espaces dont tout le monde s'empare, et pas seulement la poésie. La poésie s'en empare aussi, pourquoi pas. Enfin, et là, j'assiste à quelque chose qui est très vivant, qui est aussi l'utilisation des vidéos, des images, et donc les vidéos-textes, les vidéos-poèmes sont largement diffusés, largement partagés, sélectionnés maintenant en festival aussi. Moi-même, ça m'est arrivé. Et donc là, on se retrouve, oui, avec une nouvelle forme d'expression. Puis l'image, on l'utilise aussi sur scène. Enfin, ça dépend comment on croise les arts et les pratiques, mais il y a quelque chose de très accessible dont la nouvelle génération, et je pense notamment à quelqu'un comme Sarah Mishkin, s'empare très bien. Voilà, elle en fait, ça devient un médium en soi.
Sébastien Dubois.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord, mais là, je lisais une étude justement récente de journalistes américains qui ont compté 50 milliards de posts, voilà, mentionnant le mot poésie ou poetry sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, on a effectivement là sur les réseaux sociaux. Alors la question après est toujours la même hein, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne font pas le travail de tri que fait un éditeur entre poésie amateur et poésie professionnelle. Donc on a à la fois des poètes qui sont inscrits dans le monde de la poésie, qui publient des revues, qui font des posts, etc. Et puis vous avez une flopée aussi de poésie amateur. Donc vous avez, je pense que les réseaux sociaux donnent aussi un média extraordinaire à ceux qui veulent écrire de la poésie, du fait de la forme simplement de ce qu'on peut faire. C'est difficile de publier un roman sur un réseau social, alors qu'on peut effectivement facilement publier un poème. On mentionnait rapidement les Instapoètes tout à l'heure, qui ont trouvé le moyen de faire un business incroyable avec la poésie, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ce qui est important de dire, c'est que les frontières sociologiques entre amateurs, professionnels, etc., existent toujours sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais la chambre d'écho est évidemment incomparable à ce que pouvait être un livre dans la librairie.
Mais ces frontières n'ont pas tendance à se brouiller un peu, Maud Jouaré, malgré tout, entre amateurs et professionnels ?
Non, je pense pas. Non, vraiment. Il y a plusieurs critères, hein, pour, on en parlait tout à l'heure, mais pour définir... pour un peu délimiter cette frontière, ils existent toujours, c'est toujours les mêmes. C'est vrai que c'est la reconnaissance par les pairs, c'est l'accès à la publication ou l'accès à la scène, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de poètes et de poétesses qui ont des problèmes de légitimité parce qu'ils ne possèdent pas encore de livres. Et c'est vrai que pour plusieurs personnes, le fait d'obtenir enfin une publication papier, c'est symboliquement important, mais aussi très pragmatiquement, parce que ça nous permet de demander ensuite des bourses. Si nous n'avons pas une publication, on ne peut pas demander de bourse.
Ça, c'est la reconnaissance, enfin, voilà, éditoriale, qu'elle soit éditoriale au sens strict.
Elle est toujours symboliquement très importante.
Des éditeurs, qu'elle soit éditoriale, oui. S'agissant par exemple des festivals ou dans le domaine des arts plastiques ou dans le domaine des arts vivants. Mais qu'en est-il de la reconnaissance critique de ces nouveaux poètes et de la reconnaissance académique de ces nouveaux poètes? J'imagine que ça vient souvent dans un second temps.
Oui, ça vient dans un second temps et on n'est pas toujours tenu au courant non plus. Moi, j'ignorais qu'il y avait déjà eu des travaux sur mes textes. Je pense au monde académique. Hein. Mais sinon, pour les critiques, là,
ça se développe un peu aussi.
Ça se développe et puis là aussi, il y a une critique parallèle qui n'est plus... Enfin, la critique qui porte, ce n'est plus la critique des médias traditionnels. C'est plus la presse forcément traditionnelle qui va légitimer. Si, c'est très légitimant, mais il y a aussi toute une autre critique, c'est toutes les blogueuses, les blogueurs, et puis les critiques en fait amateurs ou ça dépend. Enfin, ça dépend. Il faut les suivre pour voir la qualité de leur travail.
Maud Jouaré, vous pouvez nous lire, dire. Oui. Je ne sais pas comment vous préférez dire.
Bah là, je vais le lire, dire. Hein, voilà.
un des textes qui compose Marée Vache.
Oui, je vais vous lire un interlude marin. C'est une ville, un port, une rue en pente, sur une colline qui n'existe plus que dans l'idée et les tensions du quadriceps. Le goudron mime la vague, rend cheap l'idée. De colline, en son milieu, deux ailes cargo, un goéland, d'épaisse, un rat. C'est une danse, un corps vivant ou mort, l'inconnu de cet état, porté, jeté par un bec, c'est l'œil rouge du volatile, le pelage brun foncé de la proie. Dans 6 jours, au fête de la rue, nous prendrons un café, puis nous irons chez toi l'après-midi, culmine sur un lit. Tu espères des tomates dans ton potager, urbain, rouge, comme le sang que nous laverons sous la douche, jumeaux du bleu qui fonde la ville. Toute colline, toute montagne, toute vie, la tienne, celle de nos parents née loin d'ici, et les blattes, les moustiques et les oiseaux. Ta sueur pour pas crever. Ta salive, étrangère comme moi, ici, nous accueille avec l'idée de la mort à vivre, de la vie à mourir quelque part. Le rat n'est pas mort. Nous sommes cloués l'un à l'autre. Un rapace nous perce le ventre, nos yeux. Des cerises salées par les embruns. Einstein les digère depuis longtemps.
Maud Jouaré, un interlude marin. Un interlude, ça veut dire que ce recueil, il est composé. Comment on construit un livre comme ça? Vous avez 20 secondes.
Alors, il est construit à partir de textes plus amples, plus longs. Et puis, j'avais quelques courts textes qui parlaient de la mer et qui parlaient pas de la mer en même temps et que j'ai insérés entre les textes plus longs comme des trous normands, comme des shots poétiques pour se rincer les perceptions entre deux autres textes.
C'est clair, je crois qu'on a, on a tous compris l'idée. Donc c'est un extrait de ce volume, votre troisième recueil, Marée Vache, le premier que vous publiez dans cette collection Poche Poésie, dont on a parlé aujourd'hui beaucoup, du Castor Astral, mais à juste titre, parce que c'est l'un des lieux où cette poésie est en train de s'élargir. Je crois que c'est un peu le mot dans beaucoup de directions. Merci à vous deux, Maud Jouaré, et merci à vous, Sébastien Dubois. Donc je rappelle, Maud Jouaré, Marée Vache, le Castor Astral. D'ailleurs, il y a ce parti pris de mettre une phrase sur la couverture du livre qui est très attirante, très intrigante. On peut lire le futur dans mes poils dressés en langue hermaphrodite. Et puis votre livre, Sébastien Dubois, on y trouve sur la couverture une image d'Henri Michaud. Vous y faisiez référence tout à l'heure, La vie sociale des poètes, qui paraît aux presses de Sciences Po. Voilà, c'était la suite dans les idées depuis le Festival du Livre au Grand Palais éphémère à Paris, avec beaucoup de monde pour rendre possible cette émission. Évidemment, Seam Boutata, comme chaque semaine, mais aussi aujourd'hui, Olivia Branger, Louise de Villard qui a réalisé l'émission, Jérôme Casamayou, Raja Boudni, Pascal Bresse et Victoria Aspect.